Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Etchari de l'équipe Podcastine.
Que faisiez-vous le 12 juillet 2022 ? Pour certains d'entre nous, c'est une date banale, un simple jour d'été. Pour d'autres, c'est le début d'une certaine vision de l'enfer sur Terre. Le 12 juillet dernier, c'est le début de l'incendie de La Teste. Sauf que voilà, quelques heures plus tard, c'est aussi le début de l'incendie de Landiras. C'est de celui-ci dont nous allons parler aujourd'hui. Presque 15 jours de combat contre le feu, plus de 13 000 hectares brûlés, 16 000 personnes évacuées, et ça, c'est avant la reprise du mois d'août, avant l'incendie que l'on appellera Landiras 2. Alors, 6 mois après, où en sommes-nous ? Si l'on regarde simplement le paysage, c'est un spectacle de désolation. Le sol est noir, le tronc des pins est noir, les aiguilles sont marron et au sol alors qu'elles devraient être vertes et sur les arbres, et sur le bord des routes, des piles et des piles de bois coupés, auxquels vont s'ajouter les milliers d'arbres brûlés qui n'ont pas encore été abattus. Face à ce paysage, on s'imagine facilement la violence de cet incendie. Et justement, quels souvenirs ont laissé les flammes à ceux qui les ont vus de près ? Vincent Dedieu est le maire d'Aurigne, commune dont la forêt a brûlé à 75%. De ce 12 juillet, il garde une image bien précise.
Le 12 juillet, une journée classique, donc moi je partais en réunion au parc naturel et en prenant la direction de Belin-Belier, je vois la fumée vers le bassin d'Arcachon. Donc je me rends compte qu'il y a un incendie, mais on est assez habitué aux incendies ici. Et là, mon téléphone sonne et ma femme me dit il y a le feu à Guillos. Donc ayant eu un feu moins de 10 jours avant, on s'est dit bah, c'est le feu qui reprend. Et c'est vrai que j'ai cette image que des flammes de La Teste et dans mon rétroviseur, le feu de Guillos.
À ce moment-là, il est loin de se douter de l'ampleur de la situation.
Mais là, on ne se rend pas compte. On se dit qu'il y a deux feux, que ça va être maîtrisé parce qu'on fait confiance aux pompiers. Et on finit, je vais à ma réunion classique. Puis en rentrant en Aurigne, je vois que c'est quand même très noir, beaucoup de fumée. Et donc, je croise la Croix-Rouge. Et là, je les accompagne à Guillos, justement, parce qu'ils veulent prendre en charge les gens. Mais je ne sais toujours pas ce qui se passe. Et là, quand j'arrive sur la place de Guillos, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et on voit que le feu est aux portes de Guillos, puisque je sais qu'ils ont commencé à évacuer un quartier. Voilà, toujours sans savoir qu'on va vivre un événement exceptionnel. Ce 12 juillet-là, on se dit, on va aider pour que ça se passe le mieux pour Mylène, la mairesse de Guillos. Et voilà, on a aidé à l'évacuation, on a aidé à faire tout ce qu'on pouvait. Et on est serein à ce moment-là. On se dit que les pompiers sont là. On ne se rend pas compte qu'il y en a moins que ce qu'il devrait en avoir. On sait qu'il y a du monde à La Teste, on sait qu'il y en a moins ici. Pour le moment, on est serein.
Et à Guillos, justement, la mère Mylène Doro se lance tout juste dans la bataille.
Il a démarré vers 16h30 à peu près et à 20h, 20h15, on faisait les évacuations. Ça a été très très vite et sur un fond très long, très large. Et le plus dur là-dedans a été ce jour-là de faire évacuer les personnes. C'est difficile de faire évacuer la population dans l'urgence, sans rien préparer. Donc laisser sa maison comme ça, sans savoir quand est-ce qu'on va y revenir, combien de temps on va s'en aller, ça a été un petit peu difficile.
Le soir même, on est devant la mairie et on voit que le feu se déplace à l'inverse du sens d'où il est arrivé. Et là, moi, je comprends pas, il y a une sorte de tempête dans le bourg de Guios. Et là, je parle avec des pompiers qui m'expliquent, parce que je ne connaissais pas, que le feu prend son propre vent. Et là, on voit le feu qui part à l'opposé du vent. Et là, on se dit, s'il saute la route Landiras-Guios, ça va être compliqué. Mais on se dit que ça va le faire. Mais quand on voit des flammes de 30 mètres à 100 mètres de la mairie de Guios, derrière le cimetière, on sait qu'il y a une maison 200 mètres derrière, au milieu des bois. Je me dis, mais là, c'est grave ce qui va se passer. Et je pense que c'est un peu avant minuit où le feu saute cette route-là. Là, on se dit que ça devient inquiétant. Et le 14 juillet, je me rappellerai toujours, le 14 juillet, on a des fumées à Aurigne, c'est l'enfer. Des grosses fumées, les gens s'inquiètent de savoir s'ils doivent partir, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et moi, en relation avec les pompiers, je leur dis de ne pas s'inquiéter. Même à 19h, on me dit le feu ne viendra pas à Aurigne, donc je rassure tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et 22h30, 23h... Là, c'est le chaos. Je partais vers Guios parce que je sentais quelque chose se passer. Et comme le PC des pompiers était là-bas, je voulais aller vers le PC. Et arrive en face de moi une voiture des pompiers avec le colonel Forensin et le président du département, Jean-Luc Glaise. Et là, ils me disent, il faut évacuer tout de suite. Donc vous imaginez, à 23h, 23h30, évacuer une population à qui j'étais toute la journée. Vous inquiétez pas, on est quand même à l'abri. Et là, je me retrouve sur la place de la commune, avec les gendarmes. Et là, on part avec les gendarmes évacuer la population. 23h jusqu'à 3h du matin. Le plus important, même si on a un temps qui est compté, c'est de convaincre les gens de partir. Donc on prend le temps qu'il faut pour leur parler. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que maire, le plus dur à vivre, c'est pas les flammes, c'est vivre une évacuation. Parce qu'on se rend pas compte que là, l'évacuation a duré 14 jours. Et 14 jours, c'est très long pour des familles, et vous êtes détestés. Parce que c'est le maire qui est responsable de tout. Et ça laisse des traces. Ça laisse beaucoup de traces, et c'est pas évident, parce que non, le maire, il a la main sur rien.
Avec les évacuations, l'incendie progresse encore sur l'échelle de la gravité. À Guios, toujours, Stéphane Le Barbier et sa famille doivent partir dans l'urgence, sans savoir s'ils reverront leur maison bordée de pain.
Alors nous, on est restés évacués 13 jours. Ma femme avait pris les papiers, le minimum, les papiers, les affaires des enfants, quelques habits. Voilà, et après, c'est tout, le minimum à prévoir. On savait pas si c'était vers chez nous que ça avait brûlé, si c'était plus dans le centre, plus... on sait pas trop, ils disent c'est un point, c'est entre... Ils ont parlé de Landiras, Guios un peu, mais on sait pas sur quel secteur, quoi.
Les jours passent, le feu progresse, et rien ne semble l'arrêter, malgré le travail acharné des pompiers. Au cœur des villages évacués, les élus sont restés pour tenir la baraque, comme on dit.
Et puis après, tout s'est enchaîné, hein. Tout s'est enchaîné très très vite, la population est partie, je suis restée ici avec les personnes du conseil municipal qui le pouvaient. On a monté le QG à la mairie et on est resté ouvert H24 pendant trois bonnes semaines. Et la dernière semaine quand même, on s'est permis de rentrer dormir à la maison parce qu'on avait besoin de récupérer aussi, sinon on a fait des rondes dans la commune aussi, parce que le village étant évacué, il fallait aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de pillage des maisons, mais on se relayait à peu près toutes les 2 heures. Les trois premiers jours, pas du tout, on était toujours sur le pont parce qu'on ne pouvait pas dormir, et puis après, on s'est organisé, on dormait 2 heures, on se relayait comme ça, on était par quatre, et on se relayait de dormir, de rester.
C'est vrai qu'à un moment donné, on nous dit, tout le monde évacue, plus personne reste à Aurigne. Là, j'appelle le sous-préfet, je dis, non, on a des gens qui connaissent le terrain, On va avoir des pompiers qui viennent de partout. Il faut vraiment qu'on soit... On connaît le terrain, on peut faire de la surveillance, on peut guider, on peut faire des choses. Donc, à un moment, oui, tout le monde a failli partir, mais... Non, j'ai dit, on a réussi à garder un petit noyau, un tout petit noyau. Moi, ce que je dis à tout le monde, parce que les gens, il y a eu des jalousies de qui a été gardé, qui n'a pas été gardé. Quand on prend la décision de garder ces 6 personnes, 6, 7 personnes, on met leur vie en danger. C'est-à-dire que je prends la décision de mettre leur vie en danger. Et ça, personne ne s'en rend compte, parce qu'on n'imagine pas ce qui va se passer. Moi, comme j'ai dit à mes voeux, il y a les gens qui sont restés, les gens que j'ai choisis qui restent à Orine pour aider les pompiers. Donc eux, on peut les féliciter, mais on peut féliciter aussi tous les gens qui sont partis. Parce que par leur comportement, ils ont contribué à la réussite et à ce que les pompiers puissent bien travailler.
La famille de Stéphane est autorisée à revenir brièvement pour évacuer ses animaux. Et ce n'est pas une mince affaire.
Ah ouais, ça a été une aventure. Donc oui, on a des poules, un cochon, des ânes. Et donc on a été évacués par... on nous a dit d'évacuer le vendredi, qu'il fallait sortir les animaux. Et c'est une dame bénévolement qui est venue sortir l'âne. Et le cochon, c'est nous-mêmes qui l'avons sorti avec les poules. On les a attrapés avec une épuisette. Ça vole une poule en cours d'arrière, mais on les a attrapés à l'épuisette et on les a mis dans une cage pour les déplacer. Bon, le cochon râlait un petit peu. Pour l'histoire, on a eu un coup de main des pompiers qui étaient sur place. Donc ils nous ont aidé à le charger dans le camion. On a bien rigolé quand même avec les pompiers.
S'autoriser à penser, ça y est, c'est bon, on voit le bout de ces incendies. Écoutez plutôt.
Eh bien, on s'est posé la question longtemps parce que tous les jours, ça repartait. Tous les jours, ça repartait. Alors, en venir à bout, oui, nous, au bout de 3-4 jours, le gros était... Le feu s'était déplacé. Le gros du feu était maîtrisé. Par contre, il y avait des reprises de feu importantes. Il faut savoir que derrière la salle des fêtes au cimetière, le feu a été éteint 20 fois. Tous les jours, il repartait. Au même endroit, tous les jours. À certains endroits de la commune, on savait pertinemment que tous les jours, le feu redémarrait. Et ça venait de la tourbe. Hein. Donc, comme il restait encore des choses à brûler sur certaines parties, les pompiers intervenaient aussitôt parce que ça faisait de gros redémarrages de feu. Et on se disait, mais effectivement, on n'en voyait pas le bout.
On va dire qu'on est rassuré en novembre, vraiment rassuré à partir de début octobre, octobre-novembre. On est rassuré, on va dire, à court terme, parce qu'on se projette déjà sur l'été 2023. Qu'est-ce qui va se passer? L'avantage ici, c'est qu'on n'a plus grand-chose à brûler, 76% de la commune a brûlé. Mais on est vigilant sur ce qui reste de debout.
On n'était pas trop rassuré de savoir qu'il y avait le feu, des départs de feu. Mais bon, il faut faire avec. On va pas dire nos responsabilités, mais on a pris la décision de surveiller notre terrain pour pas que ça reparte. Ça s'est fait naturellement. On s'est dit, tous les jours, on faisait le va-et-vient dans la propriété. Et après, on passait avec le tracteur quand ça redémarrait. On intervenait, on éteignait le feu quand ça redémarrait. Bon, c'est pas des gros feux, mais c'est pour éviter que ça reprenne, quoi. Quand on a plus de feu sur les propriétés, là, on a commencé vraiment à être un peu plus tranquille. Quand on a vu que ça redémarrait plus, qu'il n'y avait plus de fumerolles, qu'on n'avait pas de risque de redémarrage, quoi.
Mais justement, alors que le pire était en théorie derrière lui, le corps de Vincent de Dieu lâche. Mi-août, peu après Landiras 2, c'en est trop.
Le corps lâche, le cœur lâche. J'avais repris le travail quelques jours avant. Et je me rappelle, le 17 août, il y a eu une tempête. Donc moi, comme je travaille dans un service d'urgence chez Enedis, je commence à prendre des appels avant mon heure de travail pour aider les collègues. Et je suis en grande forme, comme jamais. On rigole avec mon collègue, parce que moi, j'aime bien rigoler. Et là, je suis pris d'une douleur dans la poitrine. Je me rappelle aller aux toilettes et dire à mon collègue, j'y vais. Et il me dit, mais tu ne fermes pas la porte. Comme s'il voyait quelque chose déjà. Et oui, je fais un infarctus à ce moment-là. Ce qu'on pense être un infarctus à ce moment-là. Et c'est marrant parce que je suis en grande forme et je m'écroule. Donc j'ai la chance de tomber sur un super médecin et qui me dit, bon, on va parler maintenant parce que vous êtes en train de faire un infarctus. Là, je m'effondre en pleurs parce que c'est un tout. C'est pas possible. Elle m'a sauvé la vie, je le sais, à ce moment-là, parce que le cœur aurait pu s'arrêter. J'ai de l'émotion parce que Ouais, y a tout qui s'écroule, ouais. Ouais, mon corps a dit stop. Je me rappellerai 2022, c'est un moment dur, ouais. C'est un moment très dur, ouais.
6 mois après, au-delà des souvenirs, c'est le quotidien qu'il a fallu réadapter, reconstruire, mais aussi se reconstruire. C'est cet aspect-là que nous aborderons dans un second épisode. Alors, à demain.
Merci Clara Etchari. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.